Voilà, chapitre 8 de Samuel. On va commencer, donc ça va être très court parce qu'il faut que j'arrête à midi, mais on va juste faire ce petit passage. C'est 1 Samuel, si je prends le premier, ça va. 1 Samuel 8. Lorsque Samuel devint vieux, c'est un peu amusant, il établit ses fils juges sur Israël. Le nom de son fils aîné était Joël et le nom du second, Abia. Ils étaient juges à Beersheba, c'est au sud. Les fils de Samuel ne marchèrent pas sur ses traces. Ils avaient un penchant, j'aime bien la façon dont c'est dit dans ma version, ils avaient un penchant pour le profit et recevaient des présents et portaient atteinte au droit. Pour des juges, c'est quand même embêtant. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, voici que tu es vieux, ils ne vont pas par quatre chemins, et que tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous, pour nous juger, un roi, comme en ont toutes les nations. Aux yeux de Samuel, c'était une mauvaise chose qu'ils aient dit, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi. C'est moi qu'il rejette pour que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi. Depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, ils m'ont abandonné pour rendre un culte à d'autres dieux. Maintenant donc, écoute leur voix, mais avertis-les solennellement et fais-leur connaître les droits du roi qui règnera sur eux. Voilà, on va s'arrêter là. Alors Samuel a établi ses fils juges, probablement pour l'aider, parce que c'était 70 km à peu près au sud de là où il résidait, à Rama. Et régulièrement, la Bible nous dit qu'il faisait son circuit dans les différentes villes, donc plus au nord et au sud, il avait établi ses fils. C'était pour lui rendre service. Alors, Samuel avait bien choisi les noms de ses fils. Joël, ça veut dire Jéhovah est Dieu. Abia, Jéhovah est Père. C'était clair, qui est Dieu et qui est notre Père. C'était bien établi dans les prénoms des enfants. Et à cette époque, on ne choisissait pas les prénoms comme ça. C'était vraiment en fonction de leur signification, des circonstances de la naissance, etc. Des souhaits aussi qu'on avait pour eux. Donc, son souhait était vraiment clair. Il les a certainement éduqués comme ça, que Jéhovah soit leur Dieu, que Jéhovah soit leur Père. La Bible ne dit nulle part qu'il a été négligent dans leur éducation. Et ça reste un point d'interrogation pour nous. Contrairement à Élie, la Bible ne dit pas qu'il était du style « Oh, mes enfants, ce que vous faites n'est pas bien ». Non, apparemment, il a fait ce qu'il fallait. Le seul problème qui est suggéré dans ce texte, c'est que c'est Samuel qui les a établis juges. Vous avez vu, Il les établit juges. Donc, ça sous-entend, comme tous les mots ont de l'importance dans la Bible, ça sous-entend que Dieu n'a pas forcément approuvé ce choix. Et comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas forcer les enfants à suivre le Seigneur. On ne peut pas forcer les enfants à être intègres. On ne peut pas forcer nos enfants à faire certaines choses. Il les a établis, mais est-ce que c'était la volonté de Dieu? On ne sait pas. Le peuple et Élie n'ont fait que reconnaître qu'il savait écouter Dieu, qu'il était fidèle dans son service et qu'il parlait vraiment de la part de Dieu. Donc Samuel avait été établi par Dieu parce que le peuple et Élie avaient reconnu, je répète bien, qu'il savait écouter Dieu, qu'il était fidèle à son service et qu'il parlait vraiment de la part de Dieu. Vous lisez ça dans le chapitre 3, versets 20 et 21. Et là, ce qui est suggéré par le texte, c'est que ce n'est pas Dieu, ni le peuple, ni avec l'accord du peuple qu'ils ont été établis, ces jeunes, mais ça a été uniquement par Samuel. Une fois juge, ses fils, on s'aperçoit qu'ils ne suivent pas ses traces. Ils recherchent le profit, et Deutéronome 16-19 dit justement qu'un juge ne doit pas rechercher l'argent. Ils acceptent des pots de vin, en quelque sorte, ils se laissent acheter. Ils portent atteinte au droit, c'est-à-dire ils ne respectent pas la justice. Donc si tu as pas mal d'argent pour payer, tu es sûr que tu gagneras ton procès. Si tu n'as pas d'argent, bah, tant pis pour toi. Si tu fais un cadeau, même si tu as mal fait, ça passera. Si tu n'as pas de quoi faire un cadeau, bah, tant pis. Donc pour eux, le problème, c'était vraiment l'argent et l'influence des gens. Ils avaient cette faiblesse. Du coup, en tant que juge, cette faiblesse va grandir. Ézéchiel chapitre 18 nous parle de la responsabilité individuelle et ça c'est terriblement important et pour nous chrétiens c'est quelquefois difficile parce qu'on se dit, élève l'enfant dans les voies du Seigneur, quand il sera grand, il ne s'en détournera pas, etc. C'est vrai, il peut s'en détourner momentanément d'ailleurs, mais y revenir. Par contre, une chose est sûre, c'est que les enfants, une fois adultes, ils ont leur volonté, ils font leur choix et ils ont leur responsabilité devant Dieu. Et Ézéchiel est très très clair là-dessus, Ézéchiel chapitre 18. C'est dur à lire pour des parents, hein, mais c'est la vérité. Je suis vivant, vous n'aurez plus à dire ce proverbe en Israël. Vous savez, les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants sont agacées. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du fils comme l'âme du père. L'une et l'autre sont à moi, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'homme qui est juste, qui pratique le droit et la justice, etc., qui n'exploite personne, qui ne prête pas, là vous avez plusieurs. S'il engendre un fils, qui soit un brigand, qui répande le sang, qui commette envers ses frères l'une de ses fautes, bien que lui n'ait commis aucune de ses fautes, son fils fait, alors là il donne toute la liste de ce qu'il fait de mal, s'il engendre un fils qui voit tous les péchés que commet, non c'est plus haut, il sera mis à mort à coup sûr, que son sang demeure sur lui. Donc si le père se comporte bien mais que son fils fait les mauvais choix, c'est le fils qui est responsable. Et il faut bien se dire qu'arrivé à un certain âge, ne serait-ce que la majorité légale, les enfants sont totalement responsables devant Dieu. Et l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc c'est clair dans la Bible. Hein. Ce n'est pas parce que les parents sont chrétiens que les enfants vont être sauvés, hélas. Hein. Ça, on aimerait bien en tant que parents chrétiens. Les enfants, à leur tour, font leur choix. C'est bien pour ça que le diable fait tant pression sur les jeunes, parce qu'il espère bien les récupérer. Donc c'est la responsabilité individuelle. Et je pense que l'erreur de Samuel, ça a été de les établir à un genre de poste où ils n'étaient peut-être pas adaptés, s'ils avaient cette fragilité par rapport à l'argent, c'était pas sage de les établir juges. Est-ce que Samuel le savait? Est-ce qu'il l'ignorait? On ne sait pas. Dieu, lui, le savait. Et on peut se poser une question. Est-ce que Samuel a pensé à consulter Dieu avant de les établir? Est-ce qu'il n'était pas dans cette dynamique? Moi, je sers le Seigneur, donc mes enfants vont forcément servir le Seigneur. Ben, ce n'est pas vrai. Nos enfants ne vont pas forcément servir le Seigneur. Ils vont faire le choix et ils en porteront les conséquences. Mais ils ne vont pas forcément servir le Seigneur, hélas. Et est-ce qu'il a consulté Dieu? La Bible ne dit pas du tout, elle dit « il a établi ses fils », point. Et là, j'insiste, le service de Dieu ou même la vocation dans une profession, c'est vrai aussi pour ça, ne peut pas être choisi par les parents. Ce n'est pas possible. Parce que justement, arrivé à un certain âge, bah c'est l'enfant qui doit choisir, c'est le jeune qui doit choisir. Parce que c'est lui qui va être responsable. S'il choisit mal, c'est lui qui va trinquer. S'il fait le bon choix, c'est lui qui va être heureux. On peut conseiller, on peut orienter, mais le choix premier, c'est celui de Dieu, bien sûr, et c'est celui du jeune devant Dieu. On ne peut pas choisir pour eux. Et je pense que Samuel a eu tort de les établir comme ça. Et je pense à combien de pasteurs qu'on a connus qui ont établi leurs enfants dans le ministère pastoral alors que ce n'était pas du tout leur appel. Et ces jeunes ont souffert, ils ont fait des bêtises, ils ont rendu leurs églises malheureuses, évidemment, parce qu'ils n'étaient pas appelés. Ce n'est pas des mauvais gars, du tout, justement. Je pense qu'ils étaient peut-être un peu trop gentils. Ils ont accepté des charges qui n'étaient pas du tout faites pour eux. Je sais qu'on en connaît. Et voilà, donc on ne peut pas établir les enfants comme ça. Et ça, c'est peut-être là que Samuel s'est trompé. Ceci étant, on a connu des enfants qui ont été des meilleurs pasteurs que leur père. Donc ça aussi, hein, j'en connais aussi, où leur père, bon, on va un ministère, puis le fils, il fonce. C'est ça que le Seigneur veut. Hein. Mais l'idée, c'est que ce n'est pas l'homme qui l'établit, ce n'est pas le père qui les établit, ce n'est même pas l'Église, c'est Dieu qui appelle. Il appelle ou il n'appelle pas au ministère, et c'est uniquement ça qui doit être entré en ligne de compte. On ne peut pas établir de règles, évidemment. La seule solution, c'est de consulter l'Éternel, de chercher la volonté de Dieu. Et on peut se demander si Samuel y avait pensé. Parce qu'on ne parle pas de mauvaise éducation, on parle simplement qu'il a établi ses fils. Et il n'aurait peut-être pas dû. Il les a mis dans une situation où ils ne pouvaient peut-être pas résister, parce qu'ils n'avaient peut-être pas la solidité pour résister aux pressions des pots de vin, Vous avez vu les hommes politiques aujourd'hui, il y en a qui sont assez intègres et puis un jour ou l'autre, ils craquent. Parce que la pression est très forte quand on est dans la politique et j'imagine quand on était juge, c'est pareil. La pression est forte. Mais tu te rends compte, si tu ne m'aides pas, il va m'arriver tel et tel malheur. Je te donne ça, ça va passer. Et combien d'hommes politiques tombent là-dedans? Pas toujours parce qu'ils sont pourris, mais parce que la pression est forte. et c'est pas évident d'y résister. Et ils avaient certainement pas ce caractère, donc c'était pas leur place d'être juge. Voilà. Alors, les anciens d'Israël, on va revenir à eux, ils ont dû évoquer le problème le plus logiquement du monde. Hein. Alors là, eux, ils sont clairs. Hein. Samuel, t'es vieux, tes fils te suivent pas, ce système de gouvernement, à la poubelle, on n'en veut plus. La Bible dit qu'ils se sont réunis, et moi j'imagine un peu, c'est des gens du Moyen-Orient, hein, les discussions animées, puis la décision, bon allez, on va aller voir Samuel, et puis on va lui dire ses quatre vérités, on va lui dire ce qu'il faut faire. Jamais là non plus on ne parle de consulter Dieu. C'est les anciens d'Israël quand même, un peuple qui est supposé être sous le règne de Dieu, ils causent, ils disent des tas de choses logiques, mais personne ne dit on va consulter Dieu. C'est pas grave. Non, on y va pour lui donner un ordre. Ah oh tiens, depuis quand est-ce qu'on donne un ordre aux prophètes en Israël? Rappelez-vous qu'à l'époque, le prophète, il parlait vraiment de la part de Dieu. Ils n'avaient pas la Bible. Hein. C'est comme si aujourd'hui, vous donniez des ordres à la parole de Dieu. Vous faites dire à la Bible des choses qu'elle ne dit pas. Hein. Oh, la Bible doit dire que ce que je fais, c'est bien. Même si elle ne le dit pas. Enfin, c'est un peu ça. Hein. C'était la Bible de l'époque, ces pauvres prophètes. Hein. C'est plus le cas maintenant. Hein. Les prophètes n'ont plus ce statut. Donc ils y vont pour donner un ordre, établis sur nous un roi. Ils ne lui demandent pas s'il te plaît, ils ne lui demandent pas est-ce que tu penses que ce serait une bonne idée. Voilà, ils ont fait ça logiquement dans leur tête, ils ont déblatéré leur truc ensemble, et ils vont le voir sans consulter Dieu, et ils lui donnent un ordre. Waouh ! Alors là, il y a des choses qui m'étonnent. Ces gens savaient très bien que Dieu parlait à Samuel. C'est écrit un peu plus haut, hein. Tout le monde savait que Dieu parlait à Samuel. Ils avaient confiance dans ce vieux prophète, parce qu'il avait fait ses preuves, hein, au moment des batailles, vous vous souvenez, il avait bien crié à Dieu, Dieu avait répondu, Dieu leur avait dit quoi faire. Ils savaient que Samuel était capable de consulter Dieu pour eux, donc la moindre des choses aurait été dire, écoute Samuel, tu ne peux pas demander à Dieu, qu'est-ce qu'on va faire, vu que tes fils, ben, ils sont un peu branlants, ils ne sont pas très clairs, hein, ils ne tiennent pas debout. Non, non, rien. Ils ne demandent même pas au prophète de consulter Dieu. C'est comme si vous lisiez votre Bible en disant, ouais, je la lis comme ça, mais je sais que ça ne va rien m'apporter. Ils savaient qu'après la prière de Samuel, Dieu avait répondu dans le passé. Il les avait délivrés lors de la toute dernière bataille. Donc quand même, ils avaient confiance dans cet homme. Non. Ils savaient aussi que lorsque les anciens s'étaient réunis, 20 ans avant, en se demandant pourquoi ils avaient été vaincus par les Philistins, vous vous souvenez, la grande décision qui avait été prise par ces grands anciens, comme quoi hein, les vieux parfois, hein, non. C'était de partir en prenant l'arche. Et cette belle décision, elle avait été particulièrement désastreuse. L'arche avait été volée, il y a eu plein de morts, y compris Élie, etc. Donc ils savaient quand même qu'ils auraient pu consulter Dieu grâce à Samuel au lieu de faire n'importe quoi. La dernière décision qu'ils avaient été prise avait été un désastre. On va emmener l'arche avec nous, c'est ça. Donc ces braves anciens, ils n'étaient pas clairs. Hein. Ils savaient, mais ils n'avaient rien appris du tout. Et là, j'insiste, quand on a vécu des choses, il faut qu'on apprenne quelque chose. Apprenons de nos expériences passées. Souvent avec André, on parle d'un frère qu'on aime beaucoup, qui est pasteur quelque part, et qui a revécu les mêmes situations 10 fois, 15 fois, puis qui ne change rien. Et on souffre pour lui, mais le pauvre. Oui, mais il n'a rien appris, rien des échecs du passé. Et nous cherchons à apprendre des échecs du passé. Quand il y a quelque chose qui n'a pas marché dans notre vie, au lieu de pleurer dessus, bon, on pleure d'abord, après on réfléchit, se dire, ben, qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux faire? Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes? Qu'est-ce que tu vas m'apprendre au travers de ça? Hein? Nous restons, ne reproduisons pas les mêmes choses. Eh bien, ces braves anciens, ils n'ont rien appris du tout. La dernière fois qu'ils ont pris une décision comme ça entre anciens, c'était débile, ils ont fait une grosse bêtise. Eh bien, ils recommencent sans consulter Dieu. Donc, apprenons du passé. La tentation de s'appuyer sur notre sagesse est toujours la plus forte. Aïe, 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 aïe. Hein, c'est des versets que je cite souvent à mes enfants. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Parce que bon, les jeunes, ils sont intelligents, hein ? Pas vrai ? Vous êtes d'accord avec moi ? Hein, ils ont des idées, ils ont des bonnes idées, ils ont réfléchi, et à arriver à un certain âge, hein, 17, 18 ans, 19 ans, on pense vraiment que... Et c'est souvent vrai. Merci Seigneur. Mais on ne peut pas s'appuyer sur cette sagesse-là. On ne peut pas. C'est sur le Seigneur qu'il faut s'appuyer. C'est sur la parole de Dieu. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ils se sont appuyés sur leur sagesse. Voilà le résultat. Et combien de fois on se trouve dans ce genre de situation ? Dans la famille, au travail, dans notre vie, dans nos décisions courantes. On sait qu'on a pris dans le passé des mauvaises décisions parce qu'on n'a pas consulté Dieu. Ça nous arrive, hein, à tous. On sait que la Bible contient des réponses à nos questions. On sait que lorsqu'on a consulté Dieu et obéi à sa parole, on a été tiré d'affaire. Et puis on va recommencer à s'appuyer sur notre sagesse humaine. Et qu'on est bête. Mais on est comme ça, hein, on est tous comme ça. Et il faut vraiment résister pour dire non, non, c'est vrai, j'ai des bonnes idées, etc. Mais je vais quand même m'appuyer sur la sagesse de Dieu. Hein. Ça demande un effort, ça ne vient pas tout seul. Et pourtant, chaque fois qu'on a consulté Dieu, qu'on a obéi à sa parole, on a été sorti d'affaire. Et quand on s'appuie sur notre sagesse humaine et qu'on se permet en plus de donner un ordre à Dieu, alors attention, quand on prie, je sais que c'est très rare dans notre église maintenant, mais surtout attention, on ne donne pas des ordres à Dieu. Seigneur, tu vois cette personne, fais qu'elle fasse ceci, fais que ceci, ce ça. Non, Seigneur, fais ta volonté. Parce que le Seigneur, il est plein de ressources. C'est un artiste, c'est un créateur. Il a des ressources incroyables. Moi, je suis étonnée de ce que Dieu fait parfois. Je dis, non, mais c'est pas possible. Il a des idées que nous, on n'aurait pas. Il a des façons d'agir que nous, auxquelles on ne pense pas. Donc, arrêtons de nous appuyer sur notre sagesse, faisons-lui confiance et surtout, on ne lui donne pas d'ordre. Tu vois cette personne qui m'embête, tu vas lui faire ça et ça et ça. Non, si ça se tombe, elle va se convertir cette personne. Vous ne savez pas ce qui se passe. Ce qui s'est passé dans le témoignage de Marilyn Mitton que je vous ai raconté l'autre fois. Si, voilà, elle aurait pu prier cette dame, tu vois, cette Marilyn là qui est soignante. Seigneur, tu permets qu'elle tombe malade et qu'elle parte de mon service. Et en fait, cette femme, non, elle a Seigneur, fais ta volonté en sa vie, fais ta volonté en sa vie. Aujourd'hui, Marilyn est chrétienne. Voilà. Alors en plus, souvent, on prépare tous nos arguments rationnels. Hein. Ils étaient très rationnels, nos anciens. Samuel, t'es vieux, c'est incontestable. Tes fils ne marchent pas dans tes voies, ça aussi, c'est incontestable. Donc voilà la solution, établis un roi. Pas de demande, rien du tout. Alors là, j'entends déjà des... J'ai presque terminé. J'entends déjà des réflexions, mais comment Dieu pouvait-il être contre cette décision ? Puisque lui-même avait annoncé à Abraham, des rois sortiront de toi, Genèse 17:6, et à Sarah, verset 16, et à Jacob, 35:11. Ah ! Comment est-ce que ce Dieu qui avait annoncé qu'il y aurait des rois en Israël, ben il n'est pas content qu'on demande un roi ? Ah ah ! J'ai discuté de ça avec Philippe l'autre jour. Donc j'ai réfléchi là-dessus. Et Deutéronome 17:14, là c'est la cerise sur le gâteau, tu mettras sur toi un roi choisi par l'Éternel. Bah zut, comment ça se fait que Dieu n'approuve pas cette décision ? Verset 6, aux yeux de Samuel, c'était une mauvaise chose. Et Dieu lui répond, le pire, c'est que Dieu lui donne raison. C'est pas toi qu'il rejette, c'est moi, pour que je ne règne plus sur eux. Alors là, on ne comprend plus rien. Genèse, Deutéronome, le peuple demande un roi et Pan, le prophète n'est pas d'accord, Dieu n'est pas d'accord. Alors là, on a un gros problème. On pourrait même croire que Samuel est devenu susceptible. Oh, Seigneur, il me rejette. On peut croire qu'il prend cette demande comme un jugement, une critique perso, un affront. Et pourtant, il a le bon réflexe, Samuel. Il aurait peut-être dû faire ça pour ses fils aussi. Il va prier. Il ne discute pas avec les anciens. Il ne discute pas. De toute façon, leurs arguments étaient incontestables. Hein. T'es vieux, tes fils ne te suivent pas. Mais il va prier, il a le bon réflexe, il va prier, et Dieu lui confirme que le peuple a tort. Alors on peut se poser la question, pourquoi ? Suite au prochain numéro, pourquoi est-ce que le peuple a tort ? Et réfléchissez cette semaine, je ne vous donnerai pas la réponse, on va voir ça la semaine prochaine. Pourquoi le peuple a tort ? Il y a deux, au moins deux, si vous en trouvez d'autres, donnez-les-moi, ça m'intéresse. Moi j'en ai trouvé deux.